Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée de la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné, votre animateur de ce beau programme. Et pour m'accompagner cette semaine, Luc Desormeaux est avec moi. Salut Luc.
Salut Jean-Benoît, le seul qui peut pas s'en sauver ça à l'heure.
Ouais. Daniel, de l'ouvrage, du travail, tu sais, une affaire payante là. Ah, il met tellement pas ses priorités en bonne place.
C'est ce qu'il dit.
Oui, c'est ce qu'il dit.
Est-ce que c'est vraiment la réalité?
Ah...
C'est ça. Il y a juste celui puis sa blonde qui le sait. Puis peut-être son boss, mais bon.
Les absents ont toujours tort et Daniel a souvent tort.
Ouais, depuis un bout, ouais. On dirait, je pense qu'il, au lieu, il doit commencer à sentir la soupe chaude. Personnellement, tu sais, avec nous autres, ça dure pas super longtemps, hein, les collègues. Fait qu'il doit commencer à sentir la soupe chaude, puis peut-être qu'il essaie de se trouver quelque chose ailleurs.
Le prochain show qui est là, je suis sur le bord de demander de faire un test d'embauche. Tu sais, rendu là, là, il est tellement pas là souvent que je pense qu'il va falloir le réembaucher s'il revient. Là, c'est... Il est plus sur le payroll.
Ouais, le payroll, c'est quoi ça?
Une façon de parler. Là,
ah, OK.
Il n'y a pas vraiment de salaire. Là.
Je pensais qu'il fallait j'attendre mon chèque.
Et boy, ça. Retiens pas ton souffle.
Non, je pourrais changer de couleur.
Ouais, avant de recevoir un chèque.
Ouais.
Cette semaine, à l'émission, Luc, de quoi tu nous parles?
Moi, je vais vous parler d'un petit jeu de Nintendo, quelque chose qui a passé presque inaperçu. Là. Yoshi's New Island.
Et qu'on voulait l'aimer, hein?
Ouais, ben je vais vous en parler. Je l'ai pas. Moi, je l'ai pas détesté. Bon, il y a des choses qui me tapent ses nerfs dans le jeu, mais je veux dire, en tant que tel, si vous aimez le style de jeu, vous aimez les jeux de plateforme, c'est un jeu qui est quand même intéressant. Fait que je vais vous en reparler quand ce sera mon tour. Là.
OK, c'est bon. Moi, ma critique principale cette semaine, ce sera Forza 5, jeu qui est une exclusivité Xbox One. C'est le premier jeu que j'ai acheté. J'ai acheté la console. Après avoir testé le jeu chez un de mes chums, j'ai fait comme, OK, ça me l'apprend. J'étais, tu sais, je voulais attendre un an avant d'acheter la One, mais Forza 5 m'a comme tordu un bras. Puis là, ben, j'ai cédé juste avant qu'il craque. Fait que c'est
OK. Ça. Ouais. Ben, moi, c'était le jeu qui était supposé me faire acheter une Xbox One, mais le fait qu'il n'y en avait pas nulle part à un moment donné m'a fait patienter.
Ça a nuit un peu, hein?
Ouais, après ça, je me suis dit, ben, j'ai regardé ma bibliothèque de jeux Xbox 360, j'ai dit, ça, j'ai pas fini. J'ai-tu vraiment besoin d'une nouvelle console, moi? Fait que j'ai remis ça un petit peu plus tard.
Ah, ben, regarde, t'auras éventuellement des baisses de prix et les jeux seront moins chers et peut-être que t'auras droit à Forza complet.
Ben, gars, ça commence à sortir les consoles avec un jeu. Là, ils ont sorti une console pour Titanfall.
Fait non, mais tu vas comprendre pourquoi que je dis Forza complet tantôt.
Ouais, ben on va en reparler pendant ta critique, là, mais j'ai toujours été un grand fan de Forza. Ça n'a pas toujours été des jeux parfaits. Là. Le 3 et le 3 était vraiment bien. Le Forza 4, je commençais à trouver qu'on étirait à sauce un peu puis qu'on essayait trop de vendre du DLC. On a pris la tournure EA un peu, puis je trouvais que c'était vraiment trop. Puis quand ils ont sorti le jeu de le Forza...
Horizon.
Forza Horizon, ça c'était comme, OK, là on veut faire un Most Wanted, on veut mettre une histoire là-dedans. Moi, j'ai pas accroché, je l'ai même pas acheté, fan de char fini que je suis.
Ah, moi, je l'ai adoré, j'en ai fait la critique d'ailleurs sur le show. J'ai trouvé ça super le fun d'avoir un Need for Speed, mais qu'il n'y a pas d'élastique, là, que, dans le sens que si tu es en avant de tout le monde, tu restes en avant de tout le monde. Si tu es en arrière, tu n'as pas de propulsion magique qui fait que tu rattrapes tout le monde. Tu sais, de mélanger les courses urbaines avec la conduite de simulation, je trouvais ça génial. Puis l'ambiance de party, tout ça. C'est un excellent jeu. Moi, il mérite que tu le pognes dans une benne éventuellement, Luc, pas trop cher, puis tu te permettes là, de l'essayer. Là.
Ah, c'est ça. Peut-être un jour, mais que je le vois à 15-20$ à quelque part, là, ou en usager même. Là. Mais,
ben, vu que tu as des réticences, prends-le pas plein prix, mais je te le dis, il vaut la peine d'être essayé. C'est correct, c'est un bon jeu. Là.
À un moment donné, probablement. Mais je joue encore à Forza 4 et à Forza 3 de temps en temps parce que c'est des excellents jeux.
Sinon, ben, un peu comme à notre habitude, on a une couple de trucs qu'on veut mentionner en début d'émission, dont nos fails de la semaine. Moi, j'en ai une. Je ne sais pas si toi, tu en avais, Luc, cette semaine.
Non, j'ai pas cherché de fails cette semaine. J'ai été gentil. J'ai pas vraiment cherché.
Tu connais mon amour pour le simulateur de chèvre?
Oui, ben oui, c'est sûr. Je sais que t'as fait une précommande aussi parce qu'il y a une espèce de collector edition avec une vraie chèvre qui est livrée puis un petit champ de pâquerettes. Là. C'est tout livré dans un gros crête en bois, non?
Genre de précommande qu'il faut pas que t'attendes au magasin pour aller la chercher. Là. C'est
ouais, parce que tu pourrais. C'est un peu comme emballer un chat à Noël, tu sais, je veux dire.
Ça se peut
tu
que
l'emballes
tu
pas trois semaines avant pour prendre l'avance, tu sais, parce que tu pourrais retrouver le chat dans un mode peut-être déshydraté.
Dans un piteux état. Hein?
Très piteux, piteux état, un minou en piteux état.
Ouais. Ouais. Et chèvre, ben, tu préfères du steak de chèvre éventuellement si tu attends trop longtemps.
Une chèvre, c'est pratique parce que tu peux faire du lait de chèvre, puis Dieu sait que du fromage au lait de chèvre, c'est excellent.
Ah, du savon, il y a plein de trucs que tu peux te faire de... Ben, chèvre, peux-tu te faire des manteaux avec ça? Avec la poêle?
Je penserais pas. C'est comme. Moi, ben.
C'est pas de la laine.
C'est
hein?
Laineux un peu. Je sais pas. Donne-moi 30 secondes, je vais aller voir mon voisin. Non, c'est pas vrai.
Vous voyez comment est-ce qu'on est des experts, hein?
Non, mais je reste quand même assez cru dans un champ. Je suis sûr que si je fais 5 minutes de char vers une des directions, pas loin d'ici, je vais trouver des chèvres, là, mais ça me tente pas.
Reste avec moi, Luc. Reste avec moi.
Oui, je reste avec toi.
Je voulais te parler un peu de Code Simulator parce qu'il y a une vidéo qui a circulé dans la dernière semaine sur Internet, un genre de trailer pour le jeu, une genre de bande-annonce, et j'ai trouvé ça savoureux. Je mets ça dans les fails parce que un simulateur de chèvre en jeu, on s'entend que c'est un fail à base, là, j'en reviens pas là-dessus, là. On en a déjà jasé. C'est drôle, OK? C'est drôle, c'est tout. La vidéo, par exemple, était cohérente. Ça m'a donné le goût d'acheter le jeu, d'attendre qu'il y ait un rabais dessus, là, on s'entend, là, mais d'acheter le jeu. On a fait la même bande-annonce que Dead Island. Je sais pas si tu te souviens, là, cette fameuse bande-annonce au ralenti, musique orchestrale, langoureuse, très lente, très...
Celle qui finissait avec la petite fille qui tombait en bas de la
bâtisse. Oui, exactement, qui était comme à reculons, tu sais. On voyait les événements, comment ça s'était passé avec des flashs. Puis sinon, le principal, c'était à reculons, puis on revenait sur les événements qui s'étaient déroulés dans cette chambre d'hôtel-là. Une bande-annonce qui avait tellement été forte à ce moment-là que la gang de créateurs de Dead Island n'ont pas le choix de sortir le jeu plus tôt pour profiter du hype et sortir un jeu qui avait des gros problèmes de bugs et qui n'était pas fini.
Manqué de polissage.
Ouais, tu sais, un double tranchant, là. On dit qu'une médaille a deux côtés. C'est exactement ça. Ils ont frappé trop fort avec leur vidéo. Le marketing a embarqué dans patente, puis ils n'ont pas le choix de sortir le jeu plus rapidement. Ben, on a fait la même affaire avec Code Simulator. On a pris la même trame, les images à revers, les explosions, les affaires bizarres que la chef peut faire. D'ailleurs, ça me fait plus penser à un Need for Speed de la chef qu'à un Forza de la chef. Je sais pas pourquoi, là, mais Goat Simulator, moi, je pense plus que c'est Goat Arcade.
OK, comme Goat jeu. Arcade Simulator. Ouais, c'est une version arcade.
Ouais, donc, arcade de la chef, parce qu'elle fait des affaires bien, bien drôles. Donc, je l'ai mis sur ma wishlist de Steam, puis éventuellement, quand le jeu sera à 5$, je vous en ferai la critique, mais avant ça, je paierai pas plein prix, c'est sûr, pour ce jeu-là. Mais ça m'a donné le goût de l'acheter. La vidéo était cohérente. Si vous êtes en mesure de trouver ça, je vais essayer de le mettre en lien sur sur les différents textes, là, sur les pages où est-ce qu'on met le show. Là. Vous connaissez l'endroit où est-ce que vous allez le chercher. Et même dans la description là, de l'émission, on vous mettra le lien pour cette vidéo-là. C'est cohérent, c'est magique. Ils ont fait une belle job. C'est très, très drôle.
Ça en prend des fois des choses légères de même, mais tu sais, des fois, trop léger, ça, c'est ça. Un petit peu ordinaire, mais tu sais, il faut avoir du plaisir dans la vie. Si ça leur fait plaisir de faire un simulateur de chef, puis ils pensent pouvoir faire de l'argent avec ça, ben tant mieux pour eux autres.
Oui, tant mieux. On n'aura pas été... ça va être difficile d'aller plus bas que ça.
Ben non, je suis sûr qu'ils sont capables.
Oh,
peut-être avoir un écureuil simulator, tu sais, ou quelque chose de même, là. On sait jamais.
Ben,
on peut descendre.
Tu ris, mais il n'y a pas des. Dans les jeux de air de glace, est-ce qu'il y a des séquences ou est-ce qu'on joue l'écureuil avec sa noix?
J'ai pas pris la peine de jouer aux jeux d'air de glace. Je ne pourrais te dire.
Mais ça serait une façon d'utiliser l'écureuil comme personnage de belle façon. En tout cas, tout ça pour dire que Ghost Simulator, maintenant en rabais, je vous ferai une critique. À un moment donné.
Tu vas te précommander ça sur Steam. Tu vas le mettre sur ta watch list.
Ouais, sur ma liste de souhaits. Puis quand il y aura un rabais, ben on regardera ça. Sinon, autre truc que je voulais vous parler aujourd'hui. Poisson d'avril, on enregistre aujourd'hui, c'est le 2 avril au moment de faire l'enregistrement. Donc, on est au lendemain du poisson d'avril. Et la réalité augmentée a été la cible d'un poisson d'avril. On salue la gang de podcast Egom Balloon qui nous ont eu en interview à notre insu, dans le sens que ils présentent dans leur émission une émission spéciale de pour le poisson d'avril.
Dire la Saint-Valentin.
Ouais, je sais pas pourquoi, mais je suis en train de.
Parce que t'as reçu beaucoup d'amour pendant cette petite entrevue-là.
Peut-être. Donc l'entrevue en question, ils ont pris des cotes de nos émissions. Des trucs qu'on dit, puis on posait des questions pour que ça fasse drôle. C'est vraiment très, très comique. Les trois, on écoutait ça. C'est un bel hommage. Moi, je me dis que si on prend la peine d'écouter le show, de trouver des questions qu'ils pouvaient poser avec nos réponses, c'est parce qu'à quelque part, ils devaient apprécier l'émission un peu, là.
Ouais, puis c'est sûrement pas écouter un show, c'est sûrement écouter quelques shows.
Ouais, quand même.
Pour être capable de trouver quelqu'un qui dit « Ah oui, quelque chose » ou qu'on... T'sais, ils se sont peut-être fait une liste de questions qu'ils voulaient en partant. Puis après ça, ils se sont dit, ben OK, on va trouver des réponses t'sais, qui pourraient avoir de l'allure avec ça. Ben, puis là, ils ont écouté des émissions pour justement t'sais, trouver les coupures, les petites passes qu'ils avaient besoin. Là. Mais il y a beaucoup de travail qui a été mis là.
Ah oui, non, c'est clair.
Félicitations. J'ai écouté ça aujourd'hui sur mon heure de dîner, puis j'ai bien ri.
C'est drôle de se voir parodier. Je me sentais comme Big tout d'un coup. Je fais hey, c'est donc bien hot. Je vais vous mettre ce faux épisode. Je vais vous le mettre à la fin de l'émission pour les gens là, qui nous écoutent via podcast et sur Internet. Vous aurez la chance d'écouter cette parodie-là qu'ils ont fait de la réalité augmentée dans le cadre de cette fausse entrevue. Alors rendez-vous à la toute fin de l'émission.
Ça, vous allez pouvoir nous réentendre, mais tu sais, dans un contexte autre.
Un peu différent, oui.
Oui, c'est ça.
On est peut-être plus intelligent dans ces réponses-là que dans la vraie vie. C'est ça le pire.
Sûrement. Ça me surprendrait même pas.
Et en terminant, dernière petite annonce. Comme je vous disais, on enregistre en ce 2 avril. Donc, en fin de semaine, week-end du 5 et du 6 avril, événement spécial impliquant Binox du côté de Québec. Il nous présente The Amazing Spider-Man 2 dans le cadre de l'exposition du Musée de la civilisation de Québec, l'exposition sur l'histoire des jeux vidéo. Ils vont permettre aux gens là, d'aller jouer quelques tableaux, un genre de démo du jeu durant cette fin de semaine-là. Aussi, conférence de presse, là, mais un genre d'atelier conférence à l'auditorium qui est attaché avec la bâtisse du Musée de la civilisation. C'est gratuit d'ailleurs, cette conférence-là. Dimanche à 13h, j'y serai. Moi, je vais aller faire mon petit tour. Toujours bien intéressant. C'est le fun de voir que Binox, une entreprise qui, est relativement grosse dans le domaine du jeu vidéo au Canada, qui est à Québec, s'implique dans la communauté et offre la chance à la population de se sentir, tu sais, d'avoir un certain sentiment d'appartenance envers l'entreprise grâce à ce genre d'événement-là. Donc, si vous avez l'occasion, dimanche le 6 avril, 13h à Québec, au Musée de la civilisation, il y a cette conférence-là. Et en plus, il y a un tournoi de Skylanders. Je ne me rappelle pas exactement là, les modalités, mais cherchez Binox dans Google et dans les actualités. Vous allez être en mesure de trouver là, qu'est-ce qu'il y en est. Un concours de Skylanders, vous pourriez gagner là, des prix dans le cadre de cet événement-là. Et si vous êtes bon là-dedans, vous êtes bon dans les Skylanders, ben allez-y. Ça peut être bien, bien cool de participer à ce genre d'événement-là. J'essaie de trouver là, le concours, la compétition. Également participer au développement de Skylanders. Je suis en train de lire le truc. Compétition de Skylanders Wild Force. Ça se déroule de 12h30 à 16h30, la compétition. Donc, Maître du portail, dit-on. C'est le titre de la compétition pour les Skylanders.
Non, c'est fun. Les enfants vont être plein de plaisir. Puis les plus vieux enfants aussi.
Ouais, et après ça, je parlais d'une conférence à propos de... avec Binox, c'est à 13h, c'est gratuit, sur la création d'un jeu vidéo. La création de Amazing Spider-Man. Et ensuite, il y a une autre conférence à 14h30 qui, elle aussi, est gratuite et qui sera centrée sur les Skylanders Swap Force. Là aussi, on va parler du développement. Donc, rendez-vous dimanche 6 avril. C'est au Musée de la Civilisation de Québec, une organisation là, avec la gang de Binox que l'on salue.
Essaye de leur tirer des verres du nez, peut-être, parce que moi, à ce que j'ai entendu, il y a un quatrième jeu de Skylander en marche présentement.
Je ne serais pas surpris.
Puis, non, ben, penses-tu? Mais... Les babelles se vendent, c'est sûr que ça va sortir, parce qu'il y a eu une exposition de jouets à New York, puis il y avait un Skylander qui avait été présenté, qui est un Skylander qui n'est pas dans la série de Skylander présentement. Puis c'est un Skylander qui est un espèce de lion.
Okay.
Donc, les gens se sont dit que c'était probablement la prochaine version des Skylanders.
Mais là, ils vont faire des triples swaps, là. Ils vont faire des bonhommes qui se séparent en trois pour se remixer, là. Hein? C'est ça.
Ouais, c'est ça. La tête, là, après ça, soit le corps, après ça, soit les jambes, tu sais.
Les quadruples s'en viennent
aussi. Tu pourrais mettre des souliers de puissance, puis après ça, des gants de puissance, puis des lunettes, puis tout le kit. Bien vite, ça va devenir comme un G.I. Joe que tu vas pouvoir habiller. Une Barbie.
On rit bien gros, là, mais c'est parce que... Veux pas, c'est un peu ça, le Swap Force, c'est de doubler ton nombre de personnages, puis ce que tu peux faire avec physiquement pas grand-chose de différent. Là.
Non, ça ouvre des possibilités dans le jeu, mais le problème, c'est que ça pousse à encore plus à acheter les personnages que dans les autres Skylander, comme dans Giants.
Ça crée une différence entre ce qu'il y avait avant et là maintenant, donc faut acheter des nouvelles patentes, c'est toujours comme ça.
C'est ça. Ça te prend au moins un personnage de chaque élément pour terminer le jeu. Puis après, ça te prend un personnage, au moins un force de chaque élément pour finir d'autres niveaux. Puis après ça, ça te prend un personnage qui a, mettons, la possibilité de creuser, l'autre qui a la possibilité d'être furtif, l'autre qui a la possibilité de sauter haut, puis l'autre qui a la possibilité de coller au mur pour faire d'autres... Fait que là, tu vois que t'as en plus des capacités, fait que ça commence à être assez compliqué puis assez cher pour les parents.
Ouais, ben c'est ça qui arrive, hein. C'est les parents qui finissent par payer la note, hein, tout le temps.
Ouais, c'est ça, parce que c'est qu'est-ce que tu veux, c'est de même que ça fonctionne.
Oui, normalement c'est les parents qui ont le portefeuille, fait que...
Ben ouais, puis c'est l'argent pour les cadeaux de fête, c'est là que ça va, puis des choses comme ça. C'est quand même un jeu de qualité. Si ça reste des jeux de qualité, ça me dérange pas de dépenser de l'argent pour ça, mais si un jour ça devient juste un prétexte à vendre des figurines, ben là, ça, moi je vais débarquer, c'est tout aussi simple que ça. Mais
en espérant.
Ils font de l'argent avec moi encore.
En espérant que ça ne devienne pas, c'est ça, un prétexte à faire du cash.
Ouais. Ben Activision est quand même derrière, donc les chances sont très grandes. mais bon, on va voir ce que ça va donner. Mais au moins, ça fait travailler un studio de Québec qui est Binox. Fait que ça, c'est un gros point positif.
Il y a un petit peu de nous autres dans ce gros succès. Je parle de nous autres en tant que Québec, là, la province. Ouais. Nous autres, toi et moi, on n'a pas fait grand-chose là-dedans. Là.
Non, à part dépenser.
Relatif. Mmh.
Oui, c'est ça. Mais pour ça paraît bien dans le Sud Québec qui travaille là-dessus.
Yes,
c'est quand même
clair.
Un gros titre.
Allons-y avec ta critique, Luc. Tu vas nous parler de Yoshi's New Island sur 3DS. Ça, c'en est une franchise qu'on se disait depuis longtemps que Nintendo devait ressortir. Finalement, c'est le cas. Est-ce que le résultat est au rendez-vous, par contre? Tu vas nous le dire dans le cadre de ta critique.
Ouais, moi je vais choquer bien des gens en vous disant je n'avais vraiment jamais pris le temps de jouer à un jeu de Yoshi auparavant. Donc je suis pas du genre qui va vous dire ah mais tu sais comparé à le Super Mario Bros 2 Yoshi Island dans le temps puis Yoshi Island DS c'était pas mal meilleur. Je peux pas vous le dire, je les ai pas joués. C'est peut-être une faiblesse mais ça va me donner un point de vue différent vu que
t'arrives avec une fraîcheur, t'as pas l'esprit marqué par des choses qui ne sont pas dans le titre, tu vas le prendre pour lui-même. Dans son unique concept qu'il est lui. Là.
C'est ça, un titre unique qui est comme bon un tout à lui seul. Donc Yoshi Island, c'est quoi? Mais c'est un jeu de Yoshi. C'est un jeu où il y a 6 mondes. Puis bon, le méchant de la fin. Bon, on incarne des Yoshi et non pas un Yoshi. Moi, j'ai toujours eu dans l'idée que Yoshi c'était Yoshi, tu sais, comme Mario, c'est Mario, puis Luigi, c'est Luigi. Mais je pensais que Yoshi, c'était Yoshi. Mais non, Yoshi, c'est des Yoshi.
Oui.
Yoshi, c'est la race. Fait que c'est un peu comme Yoda dans Star Wars. C'est Yoda, mais c'est Yoda, c'est son nom. C'est quoi sa race, on le sait pas. Mais ça, c'est des Yoshi. Hein? Dans le jeu, on incarne plusieurs Yoshi qui se donnent la tag comme un peu à lutte pour prendre Mario sur leur dos pour essayer de le sauver. Donc, l'histoire, c'est tout simple. Il y a une cigogne qui s'en allait livrer Mario à ses parents, et puis la cigogne se trompe puis se ramasse à livrer à une mauvaise place. Elle décide de revirer de bord. Je me pensais un peu dans un épisode de Bugs Bunny, un moment donné où le canard se fait livrer le Bugs Bunny se fait livrer un singe, puis tout ça, là, ça fait un peu bizarre. Les cigognes n'ont pas l'air vraiment réveillées dans le monde du jeu vidéo ou d'un dessin animé. Je commence à me demander si c'est pas une espèce qui devrait être en voie de disparition.
Il y a un job essentiel, mais hein, la rectitude n'est pas tout à fait là.
Ouais, ça n'a pas l'air d'être top top leur affaire. Donc, la cigogne se trompe, reprend Mario, s'en va pour aller la porter Mario à ses vrais parents. Et puis, Bodum, se passe un incident où Mario se ramasse sur l'île des Yoshi. Donc, les Yoshi le trouvent et là, ils prennent en tant que groupe la mission d'amener Mario chez ses parents et de le sauver. Donc, comme je disais, on incarne plusieurs Yoshi. Le Yoshi qu'on connaît, le vert, un Yoshi rose, un bleu, un jaune, un mauve, un orange, un rouge, un bleu. Donc, ils vont à tour de rôle à chaque fois qu'on passe un tableau dans un niveau, on va changer de Yoshi. Donc, il y a dans chaque niveau, il y a 8 tableaux, 2 châteaux, un château au milieu. Donc, on a 3 niveaux, un château, 3 autres niveaux, le château de fin de niveau, puis après ça, on passe à un autre monde.
Hey, Luc, donc, je veux pas que tu ailles trop loin, mais là, tu as dit, on est plusieurs Yoshi qu'on incarne. Là, tu nous dis, c'est plusieurs Yoshi. OK. Ça, je comprends. Tu nous dis que c'est une race.
Ouais.
Quand on n'a plus de vie, ça veut-tu dire que c'est l'extinction de la race des Yoshi?
Je vais te dire, puis en allant dans ma critique, je m'en allais un peu vers ce point-là. quand tu joues au jeu, tu comprends pourquoi que le Yoshi vert, le Yoshi qu'on connu, prend pas en lui-même la mission d'aller porter Mario chez ses parents, parce que Mario, c'est un petit broyard. C'est vraiment le bébé broyard que personne ne voudrait avoir. Aussitôt que Yoshi se fait toucher par un ennemi, Mario débarque de son dos, se ramasse dans une bulle et là, ça te broye ça à pu finir jusqu'à temps que Yoshi le reprenne puis le remette sur son dos. Donc, je peux comprendre que à chaque tableau différent dans un niveau, faut changer de Yoshi parce que les oreilles doivent leur saigner. c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Ça en est fatiguant à un moment donné. Mario broye tout le temps.
C'est les Yoshi pas fins. C'est comme une punition. Ah ouais, tu t'occupes du bébé aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il faudrait vraiment pas que la princesse Peach joue à ce jeu-là parce que je pense qu'elle sacrerait Mario-là. Il est tellement broyeur. Elle dit, je peux pas croire que t'étais le même quand t'étais petit. C'est vraiment l'enfer. Donc, à chaque fois que Yoshi se fait toucher, Mario débarque, là, il pleure. Puis là, on a un certain nombre de secondes cumulées, je pense que c'est 20 secondes cumulées, où on a pour reprendre Mario puis le remettre sur notre dos. Si on le repère comme, je sais pas, 2 pieds plus loin, on a le temps qui nous restait. Donc, s'il nous restait 8 secondes, il nous reste 8 secondes pour ramasser Mario. Sinon, il y a des méchants habillés en rouge qui viennent ramasser Mario puis qui l'amènent avec eux. Puis là, tu perds Mario, puis c'est comme le méchant qui vient ramasser Mario. Puis là, faut que tu recommences le tableau. Moi, être Yoshi, je dirais juste bon débarras, je retourne chez nous faire dodo ou jouer à quelque chose.
En fait, il faut le prendre comme de l'amnésie, là. Comme si ça s'était jamais passé, puis on recule dans le temps, puis on revient au début du tableau.
Ouais, c'est ça. Là, faut que tu recommences, puis là, tu repasses à travers ton tableau. Bon, le jeu n'est pas tellement difficile. Je vous dirais que c'est presque impossible de mourir, à part si on tombe dans un trou, parce que vraiment, Yoshi ne peut pas vraiment mourir. On peut perdre Mario sur notre dos, puis on peut manquer de temps pour le ramasser, puis il faut recommencer le tableau. Ou on tombe dans une crevasse, puis on meurt. Mais, tu sais, mourir touché par des ennemis, moi, ça ne m'est pas arrivé.
À ce point-là.
Ouais, fait que je pense que ça peut juste pas arriver parce que c'est vraiment le bébé Mario que tu perds, puis c'est lui qu'il faut que tu récupères. Il y a des cerceaux qu'on va traverser à certaines places dans le niveau qui vont nous redonner notre 20 secondes pour garder Mario sur notre dos. Bon, ça, c'est correct. Yoshi, une autre chose que je trouve un peu bizarre et c'est pas vraiment des bons parents, puis ils sont pas nécessairement non plus inquiets de la survie de l'espèce. Pourquoi je dis ça? Ben, ils passent leur temps à pitcher leurs œufs sur des nids pour les assommer puis les défendre.
Non, donc, c'est des œufs de poule, c'est des œufs nerveux.
Non, c'est peut-être, c'est des œufs vides, là. Mais là, tu peux faire manger Yoshi. C'est vraiment drôle quand tu regardes ça parce que tu fais manger Yoshi, tu as un ennemi à Yoshi, puis quand tu pèses sur le plus, sur la croix, tu pèses vers le bas, Yoshi te pond un œuf.
Oui, il fait
vraiment
ça vite.
Comme ça. Fait que là, tu manges, tu ponds un œuf, tu manges, tu ponds un œuf. Fait que là, tu peux avoir, je pense, jusqu'à une dizaine d'œufs en arrière de toi. Mais il y a des œufs partout. Tu peux manger des ennemis, puis te pondre des œufs. À un moment donné, tu pognes des fleurs qui te donnent des œufs. Fait que manquer d'œufs, c'est vraiment difficile. C'est sûr, il y a des niveaux où c'est un peu plus dur, mais il y a toujours un ennemi à manger pour que tu puisses pondre des œufs, puis tout ça. Donc, on avance dans les tableaux. Je vous dirais. Généralement, là, il y a six mondes. Le jeu n'est pas tellement difficile. Même, c'est probablement ce que je reproche le plus au jeu, c'est d'être par bout trop facile. La seule difficulté, puis j'ai écouté la critique que Bruno Georgian a fait à Monsieur Net la semaine passée, juste pour voir si on avait comme remarqué les mêmes affaires. Puis il en a parlé dans sa critique. Si t'as pas le but, puis moi j'avais pas le but, je voulais passer à travers l'histoire, voir comment ça finissait. Si t'as pas le but de tout ramasser, t'as des fleurs à ramasser, t'as des étoiles à ramasser, t'as des objets, des sous rouges que tu ramasses dans les tableaux. Si t'as pas le but de ramasser tous ces objets-là, tu peux passer à travers le jeu assez facilement parce que aussitôt que tu meurs un petit peu trop souvent, je pense que c'est 3 coups, là, ben on va te donner des ailes blanches qui vont faire que tu peux voler à travers le tableau, fait que tu peux sauter dans les airs, puis là, tu peux voler à la hauteur où tu étais. Tu vas retomber, si tu frappes un ennemi, tu vas retomber ou tu vas perdre Mario, puis tout ça. Tu peux toujours mourir. Si tu es encore un petit peu plus poche que ça, là, on te donne des ailes dorées. Ces ailes-là, les ennemis peuvent pas te faire mal, puis tu peux voler à travers le tableau comme tu veux. Donc, si tu meurs un peu trop souvent, on te donne ces ailes-là, puis tout ce que tu as à faire, c'est voler à travers le tableau puis te rendre jusqu'au bout.
OK. J'en suis à me demander, Nintendo, là, il présente beaucoup de jeux de plateforme. Il y a les New Super Mario, il y a les Donkey Kong, Yoshi Island. Pourquoi qu'ils font pas une genre de gradation, genre familiale comme plus, ou tu comprends-tu ce que je veux dire? Donkey Kong, là, est vraiment dur. Dans l'univers de Nintendo, là, c'est probablement le platformer le plus dur, là. Il est vraiment intense. Puis, à côté, t'as Yoshi Island, mais ses boîtes, tu le sais pas, tu sais. Donc, un enfant qui dit « Ah, moi, mon personnage préféré, c'est pas Yoshi, c'est Donkey Kong », un enfant de 5 ans va pleurer sa mère, là, d'avoir ce jeu-là, puis il profitera pas de l'expérience. Tandis qu'à l'inverse, un adulte qui a jamais entendu notre critique, qui a une 3DS, qui dit « Ah, un jeu de plateforme, j'aimerais ça en avoir un peu de challenge, ben écoute, Yoshi Island, ça pourrait être le fun, tu sais, ça fait longtemps, la dernière fois que j'y ai joué, c'était sur la Super NES dans le temps, tu sais. » Ben, il n'y aura pas de fun, il va le traverser super rapidement, puis il aura l'impression qu'il n'y en a pas eu pour son argent.
Ouais, mais c'est pas vrai que t'as pas de fun. J'ai eu beaucoup de plaisir à le jouer pareil. Parce que t'es pas obligé de prendre les ailes qu'ils vont te donner. Tu peux juste les laisser passer puis faire le tableau toi-même. C'est un peu comme dans Super Mario Bros. Wii, puis je pense Super Mario Bros. Wii U aussi. Si tu meurs trop souvent, tu peux demander à Luigi de faire le tableau pour toi. T'sais, fait qu'il passe puis il fait le tableau pour toi. Fait que ça, c'est bien parce qu'un enfant qui va jouer, au lieu de se décourager, va prendre ça puis va pouvoir passer son tableau puis passer à d'autres choses. T'sais, passer à un autre tableau, aller un petit peu plus loin puis voir s'il est capable de continuer. En étant adulte ou un joueur qui est un peu plus hardcore, ben, il a juste à ne pas prendre ses ailes-là puis faire le tableau comme il ferait normalement en sautant puis tout ça. Mais comme je disais, c'est pas nécessairement hyper difficile parce que Yoshi, déjà, en partant, il saute quand même assez haut, puis il a quand même le pouvoir de pédaler un peu dans les airs pour voler un peu plus loin. Fait que souvent, tu es capable de sauter par-dessus certains ennemis pour te rendre jusqu'au bout. Les tableaux, chaque tableau n'est pas nécessairement très long. Mais tu sais, c'est pas vraiment quelque chose qui va durer longtemps. Donc, on peut facilement faire une coupe de tableaux dans un laps de temps très court. Le jeu en tant que tel ne vous prendra pas 40 heures à finir. Là. C'est un jeu qui va se finir quand même assez rapidement.
Ouais, c'est ça. Si, à moins que tu décides d'aller chercher tout ce qu'il y a dedans, tous les trucs cachés, que là, ben, va falloir que tu refasses les mêmes tableaux plus souvent, tu sais, pour y arriver. Sinon, ouais, tu y passes rapidement. Là. 6 mondes, c'est pas beaucoup, là.
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'un coup, tu ramasses quelque chose dans un tableau, tu le gardes. Si tu retournes dans le tableau, l'objet est plus là. Fait que tu as pris l'objet que tu avais besoin de prendre, puis tu l'as gardé. Donc, c'est quand même le fun. Tu peux recommencer ton tableau, puis tu sais, ramasser ce qui te reste. Mais est-ce que ça nous tente vraiment? C'est peut-être que oui, peut-être que non. Donc, c'est un jeu qui est vraiment amusant quand même. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le jouer. J'ai pas eu le temps de le terminer parce qu'il fallait que je le retourne chez Nintendo. J'étais rendu au boss de la fin.
Fait que tu sais pas c'est qui le boss, t'as aucune idée.
Ben, je le sais, mais je vous le dirai pas, là. C'est que je veux pas trop spoiler le jeu. Mais c'est amusant. Si vous avez, tu sais, vous aimez les platformers, tout ça, ça vous tente, ben, allez le chercher. Il est pas tellement cher. Il est à peu près, quoi, une quarantaine de dollars. Ça a de l'allure. Le jeu dure peut-être, quoi, une dizaine d'heures gros max, 8-10 heures gros max. C'est vraiment pas super long. Mais c'est le fun à jouer si vous prenez votre temps, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est cute, c'est Yoshi, puis tout ça. Donc, moi, j'y donne un 7.5 sur 10. Je suis un petit peu plus généreux que d'autres, peut-être moins que d'autres personnes aussi. Il y a des sites qui ont donné des 9 sur 10. Là. Moi, je donne un 7.5 sur 10. C'est bien, mais j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de challenge. Puis pas qu'on me gâte super vite en me donnant les ailes pour voler. Parce que c'est sûr, moi, j'y prenais. Je voulais passer à travers le jeu, puis j'avais juste de jouer à tous les jours. Donc, je me suis dépêché. Quand je pouvais avoir les ailes, ben, j'y prenais, puis je passais à travers le tableau pour me rendre jusqu'à la fin. Mais c'est cute, c'est le fun, l'environnement est bien. J'aurais aimé avoir des musiques différentes dépendant de la gravité du tableau qu'on est dedans, mais c'est toujours la même petite musique. Quand vous allez finir le 6e tableau, vous allez la connaître par cœur, vous allez la siffler, puis le monde va vous regarder avec des airs bizarres. Parce que c'est toujours, toujours la même musique. Elle est bonne, la musique. Mais après 5 mondes, là, tu sais, j'aurais pris peut-être quelque chose de différent.
Ouais.
Mais 7.5 sur 10, ça vaut la peine.
Un petit peu plus thématique selon les univers, ça aurait été le fun. Là.
Moi, mais tu sais, Mario, chaque tableau a son thème. Ben oui. Mais on est habitué, c'est toujours pas mal les mêmes thèmes. Mais chaque tableau a son thème. Quand t'es dans le désert, c'est un thème. Quand t'es dans l'eau, c'est un thème. Quand t'es dans le château de Bowser, c'est un thème plus sinistre. Il n'y a pas ça dans Yoshi Island. C'est toujours la même petite toune, tu sais, entraînante. C'est parce que je suis sur le bord de mourir. Ça tente-tu de me mettre une toune un petit peu plus dramatique, peut-être? T'sais? Je me bats contre le boss. Ça tente-tu de changer un peu d'air de... Mais non, c'est toujours la même musique. Mais c'est un jeu qui est agréable quand même. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est le fun. Les boss sont pas hyper durs. C'est juste une question de logique puis de voir l'espèce de pattern qu'ils ont. Mais c'est un jeu qui vaut la peine d'être joué. Si vous aimez les platformers, cassez-vous pas la tête. Allez le chercher puis vous allez avoir du plaisir pareil.
Parfait. Donc, merci beaucoup, Luc, pour cette critique. 7.5 sur 10. Ça vaut la peine pour les amateurs de platformers.
Oh oui.
Changement de plan un peu dans l'émission. Normalement, là, je devrais commencer à vous parler de Forza 5. On va mettre ça de côté. On va mettre ça
on
à la semaine
prochaine.
On va faire
de quoi d'intéressant en place?
Ouais, genre. On va parler de quelqu'un d'intéressant. On accueille avec nous Simon Darvaux de Spearhead Studio. C'est avec grand plaisir, grand bonheur qu'on prend les retours d'émissions de Radio Talbot en notre veille avec nous. Salut, Simon.
Salut, Jean-Benoît. Ça va bien?
Ouais.
Papé, hey. Encore une grosse journée, là. Sérieusement, genre, j'étais en train de faire le Twitch, parce qu'on fait un live stream tous les jours de 7h à 8h, mais là, on n'avait pas complètement fini, fait que, genre, j'ai comme interrompu mon Twitch, que Malik a repris. Fait qu'il est en train de faire le Twitch en arrière de moi pendant que moi, je vous parle. Fait que,
nice!
Fait que toujours des grosses journées pour nous autres, mais ça me fait plaisir de prendre le temps de vous parler, là.
Ben écoute, on est vraiment très très content de t'accueillir avec nous autres. Tu es de Spearhead Games Studio, donc un studio de développement de jeux vidéo du côté de Montréal, studio québécois que tu as fondé avec un partenaire. Vous êtes surtout connu pour Tiny Brains, un jeu coopératif à 4, mais qui se jouait aussi en solo. Tu racontais à Radio Talbot que c'était peut-être le plus gros défaut de ton jeu, à ton avis, à toi, que les gens aient pu le jouer en solo parce que la plupart ne se sont pas donné la peine d'y jouer à 4, là où est-ce qu'on a vraiment la pleine grandeur du jeu?
Ben, je sais pas si c'était ça le plus gros défaut, mais c'est en tout cas une question que je me pose parce que ce qui est sûr, c'est que nous, on a vraiment pris chacune des décisions basées sur le fait qu'il faut faire l'expérience coop la plus intéressante qui a jamais été faite, tu sais. Fait que du coup, ça a vraiment drivé toutes nos décisions design, nos décisions level design, comment on design les power, comment on design les maps, tout a toujours été drivé par l'idée. Excuse-moi, j'utilise beaucoup de mots anglais, je vais m'excuser d'avance parce que je suis dans l'industrie du jeu vidéo, puis nous tous, les développeurs de jeux, on se retrouve à parler toujours dans des milieux anglophones, puis en fait, il y a plein de mots dont il n'y a même pas d'équivalent en français.
On va mettre les sous-titres, Simon.
Les sous-titres, ouais, c'est cool.
Ouais, on va afficher les sous-titres à l'écran.
Ouais. Fait qu'en gros, on a toujours été, on a toujours pris nos décisions en fonction du coop, ce qui fait qu'on a une expérience coop très très forte. Puis en fait, on a trouvé à la fin, à la toute fin du projet, une façon. Tu sais, en fait, tout le long du projet, on pouvait même pas jouer en single player, on pouvait même pas jouer tout seul. Puis on a réussi à la toute fin à trouver des solutions qui ont permis d'adapter les puzzles existants pour en faire des single player, mais c'est clairement des puzzles qui sont inférieurs, c'est-à-dire que t'as une expérience vraiment moins cool quand tu joues tout seul que quand tu joues en coop. Puis quand je dis moins cool, c'est significativement moins cool.
Okay.
Donc en fait, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont regardé Tiny Brains puis qui se sont fait une opinion basée sur cette expérience-là qui n'a jamais été l'expérience qu'on a eue en tête, tu sais. Fait que c'est sûr que nous, on trouve ça cool de le permettre, puis moi, honnêtement, j'ai du fun à la jouer, cette expérience single player, mais en fait, c'est vraiment pas l'expérience idéale, c'est pas l'expérience qu'on avait en tête, puis on a trouvé ça dommage qu'en fait, plein de gens se fassent une idée de notre jeu basée sur cette expérience qui n'était pas du tout celle que nous, on avait en tête, tu sais.
Ouais, puis ce que ça dit, c'est que avec le succès que tu as eu, il y a beaucoup de gens qu'ils ont connus avec ce jeu-là qui n'ont même pas joué à la meilleure portion du jeu, à votre avis, tu sais. Donc, déjà, ils vous aiment, puis ils n'ont même pas toute l'expérience, là. C'est comme redécouvrir le jeu d'une autre façon qu'on incite les gens à faire, là.
Puis d'ailleurs, justement, maintenant que tu le mentionnes, il y a une autre erreur qu'on avait faite, c'est qu'on a on avait le mode challenge qui était, à notre avis, là où est la plus grande qualité de notre jeu, parce qu'on a fait des challenges systémiques avec une valeur de rejouabilité infinie. T'sais. Celui qui s'appelait avant Ball Challenge 1, par exemple, c'est un tube qui tourne, qui est différent chaque fois que tu le joues, qui se progresse à l'infini, qui devient de plus en plus dur. Puis c'est un puzzle extrêmement addictif. À mon sens, c'est la meilleure chose qu'il y a dans le jeu. T'sais. Sauf qu'en fait, le jeu ne te demandait pas d'essayer de faire un bon score dans ce challenge-là. Fait que tu l'essayais une ou deux fois, puis tu n'étais pas rewardé pour essayer de faire un bon score.
Okay.
Fait que ça, c'est une autre des choses. On a sorti un nouvel update. On a sorti un nouvel update, d'ailleurs, je sais pas si tu étais au courant, on a sorti un nouvel update, c'était jeudi dernier, dans lequel on revampe complètement le jeu, on rajoute un nouveau mode de jeu, on rajoute des rewards pour les gens qui font des bons scores dans les challenges. Fait que ce qu'on a trouvé dommage, c'est qu'en fait, c'est ces challenges-là qui étaient vraiment hyper cool, tu sais. Les joueurs n'étaient pas incités à le faire.
Ben oui. c'est niaiseux, mais t'sais, c'est un challenge. Normalement, le joueur est censé être stimulé par le fait d'avoir un challenge, d'avoir un niveau de difficulté plus élevé, d'avoir des scores à atteindre. Puis là, ben, il n'y avait juste pas l'objectif. Donc, il laissait tomber, tu sais.
Ben, le score était là. On avait même des leaderboards. Donc, en fait, si tu si t'avais des amis, tu pouvais comparer ton score avec celui de tes amis. Sauf que le truc, c'est que c'est tout ce qu'on avait. On n'avait pas un truc qui disait qui donnait un objectif. T'sais, qui disait, essaye de faire tel score, puis tu vas unlocker quelque chose ou tu vas obtenir un reward. Là.
Donc, ce que j'en comprends, c'est que le jeu, c'est pas parce qu'il est sorti qu'il est laissé dans les bacs, puis on l'oublie. Là. Il y a du travail encore qui se font dessus.
Ben en fait oui, on a jamais arrêté de travailler dessus. Nous, ce jeu-là, on y croit, puis on pense qu'il est awesome, puis il est vraiment redéfini plein de choses dans le coop. On pense que c'est une expérience qui est vraiment très forte là, puis qui justement on a vu tellement de gens y jouer ensemble, puis avoir du plaisir, puis crier, puis cheerer ensemble, que on y croit, puis on a continué à développer, puis c'est pour ça qu'on pousse des nouveaux updates qui sont d'ailleurs gratuits. On continue d'améliorer le jeu, de revamper des systèmes, d'enlever des bugs. Puis, c'est ça, nous, on reste derrière Tiny Brains, on continue de faire des challenges Tiny Brains sur nos streams. Fait que, c'est clairement toujours d'actualité, là. Puis on est vraiment, vraiment fiers du nouveau revamp qu'on vient de faire. Le nouveau update, il y a 10 nouveaux niveaux. Il y a un nouveau game mode qui s'appelle Road to Stardom, donc la route des étoiles. Là. Je sais pas c'est quoi la traduction exacte qu'on a mis. Là.
Pas mal ça, là.
On a aussi réglé des bugs graphiques qu'il y avait sur PlayStation 4, les freeze, tout ça. Fait qu'en fait, le jeu est devenu... on a mis aussi que le démo est jouable au complet online. Si tu joues avec quelqu'un qui a le jeu au complet, tu peux faire la campagne avec lui online gratuitement.
Ah, OK. Donc, ça donne l'envie après ça, si tu veux faire le mode solo ou jouer avec d'autres mondes, tu vas pouvoir éventuellement, si tu achètes la copie.
Ouais, exactement.
Ah, c'est cool.
De toute façon, nous, on veut permettre à ceux qui ont acheté la copie de pouvoir jouer avec leurs proches, puis d'essayer l'expérience, puis de la vivre. Justement, en donnant la possibilité à ceux qui ont le jeu, qui ont la démo gratuitement, de jouer avec ceux qui l'ont acheté, ben on minimise le nombre de situations où il y a quelqu'un qui va pas le jouer en coop.
Ouais. On voyait ça un peu là, avec les consoles de Nintendo portables, là, les DS et 3DS de ce monde, où est-ce que tu avais besoin de juste une cartouche pour pouvoir jouer en multijoueur. Ça aide à l'expérience, ça aide à faciliter l'accès à l'expérience, surtout.
Oui, exactement. Puis c'est ça. Nous autres, qu'on veut, c'est on veut vraiment que ceux qui se sont procurés le jeu ben, aient le plus possible d'opportunités d'avoir la vraie expérience, parce que c'est pour ça qu'on a créé ce jeu-là, parce que c'est pour cette expérience-là, c'est pour pouvoir permettre aux gens de vivre ça. Fait que c'est ça qu'on a voulu faciliter au maximum, puis d'encourager, puis créer des nouvelles opportunités avec cette nouvelle update-là qu'on a releasé jeudi dernier. Fait que si vous l'avez pas encore essayé, je pense que ça vaut le coup. C'est vraiment super intéressant tout ce qu'on a rajouté. Honnêtement, je suis super fier de ce qu'on a fait. Genre, en plus, en parallèle avec un autre projet, là, ce qu'on a réussi à faire comme update en 2 mois après avoir sorti le jeu, je pense que je suis content. Puis je suis content aussi qu'on l'ait livré gratuitement, parce que, tu sais, en fait, c'est toutes des updates qu'on aurait voulu voir dans le jeu original, de le charger, en fait, parce que c'est vraiment l'expérience qu'on voulait que les gens aient à la base. Fait que c'est pour ça qu'on l'a distribué gratuitement, finalement.
T'sais. OK. Luc, t'avais une question?
Non, c'est beau. Je trouvais juste ça intéressant, le fait de pouvoir jouer. T'sais, tu downloads la démo, tu as un ami qui a le jeu, tu peux faire la campagne avec lui complètement, puis tu n'es pas obligé d'embarquer pour payer un 10$ juste pour voir si tu vas aimer le jeu. Si tu l'aimes, tu l'achètes. Si tu l'aimes pas, ben au moins tu as réussi à jouer avec tes chums, puis tu as eu une expérience qui est quand même bien. C'est rare que ça arrive. Normalement, des jeux, tu payes 60$, puis c'est, c'est plate. T'sais. Au moins, à 10$, t'sais, c'est pas trop cher, puis c'est un jeu qui a l'air super intéressant. Pour ça, je regardais la vidéo pendant que vous parliez, puis ça a l'air vraiment, vraiment le fun à jouer.
Ben honnêtement, c'est vraiment cool. Puis ce qu'on a réussi à accomplir sur Tiny Brain, c'est justement un jeu dans lequel les joueurs ont besoin de se parler pour résoudre les challenges. Mm-hmm. Je pense qu'on est à peu près le seul jeu comme ça. T'sais, la plupart des jeux co-op, c'est presque des jeux single player qui ont été adaptés pour 4 joueurs. C'est-à-dire que la compagnie a fait un jeu single player, puis finalement ils t'ont donné la possibilité en mettant 4 fois le même personnage, tu sais, de jouer les jeux à 4, le jeu à 4, mais finalement tu sais, t'as pas une expérience coop très significative. Tu sais, vous êtes les 4 en train de frapper sur le même monstre, puis des fois c'est même plus du noise que d'autres choses. Nous, on a vraiment eu comme objectif qu'on retravaillait chaque section du jeu jusqu'à temps que les joueurs aient besoin de se parler. C'est-à-dire que si les joueurs étaient capables de résoudre le puzzle sans avoir à se parler entre eux, on replanchait puis on réadaptait les puzzles. Donc, c'est vraiment ça. T'sais, on a mis vraiment un gros effort là-dessus. Puis honnêtement, on est un jeu indie. On n'a pas besoin de vendre autant que les AAA pour que notre jeu soit rentable. Ouais. Fait que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens aient cette expérience-là. Fait que c'est pour ça qu'on permet aux gens d'avoir la démo puis de jouer avec les gens qui l'ont acheté, pour que tout le monde qui le joue au moins le vive cette expérience coop là qui est quand même super forte. Tu sais, c'est vraiment, on a vu des gens se faire des high five, des gens, même on a vu des gens se prendre dans leurs bras à la fin de certains challenges là. Fait que...
Ah, le jeu, hein, ça rapproche les gens.
Ouais. Ouais, ben on a même une vidéo de ça là. C'était, honnêtement, je trouvais que c'était over the top là, de voir des gens comme ça. En plus, c'était à PAX Prime là. C'est les gens qui venaient de battre le record. Okay. Il y en avait qui ne se connaissaient même pas là-dedans, puis ils se faisaient des accolades à la fin de la partie. Je suis allé voir, OK.
Vous gardez ça en preuve, hein, contre la personne. Si jamais elle a fait quoi de néfaste, vous allez avoir une preuve contre elle, c'est ça? Hein?
Ben évidemment, nous, on garde toujours ça en archive, ben oui, là, parce clair. Que si jamais il faut faire chanter quelqu'un, on garde toujours ça en tête. Ouais.
Tu sais jamais quand ça peut servir.
Ah, exactement. je veux revenir un peu là, sur la communication. Tu disais là, qu'il fallait que les gens se parlent. Vous avez fait les cassettes de façon à ce que si les gens communiquaient pas ensemble, ça ne fonctionnait pas. Fallait communiquer pour en arriver à bout là, de ces casse-têtes-là. Ça m'a fait penser un peu à tout ce qu'il y avait dans Portal 2, là, le mode coop, mais on avait ajouté à ça là, la possibilité de faire des signes. Il y avait des touches pour pouvoir faire des indications visuelles à son partenaire si on n'avait pas nécessairement de micro pour jouer avec lui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré? Est-ce que vous avez pensé peut-être aller en ce sens-là?
Tu veux dire le feature d'avoir des outils de communication entre les joueurs?
Ouais, sans devoir se parler, là, mais de pouvoir indiquer des choses à son coéquipier dans le cadre du jeu, là.
Ben, en fait, on a justement des outils de ce genre-là, comme par exemple, si tu joues sur PlayStation 4, le touchpad, tu sais, le truc au milieu de la manette, est en fait une souris que tu peux utiliser pour pointer des objets dans le jeu. Fait que justement, on a créé ce genre d'outils-là. C'est sûr qu'on n'est pas aussi raffiné puis poussé que Portal 2, parce que tu sais, c'est ça, on n'est pas un
studio Valve, 300 là,
on n'est pas un studio 300 personnes avec du budget à l'infinite. Mais quand même, on a justement, mais honnêtement, Portal a vraiment été une source d'inspiration. Nous, je pense que chez Spearhead, on est tous des fans de Valve. Honnêtement, on s'inspire beaucoup de leur façon de travailler, de leur façon de designer, de leur façon de voir les choses. Je pense qu'on a une logique de production assez proche de ce qu'ils sont. On a tous lu leur guide, parce que je sais pas si vous l'avez vu, ils ont fait un guide de l'employé de Valve.
Non.
Qui définit, c'est un petit livre, je pense que c'est 35-40 pages, ça se lit super vite, là, mais ça ça te met dans le mindset de comme, à quoi tu
la mentalité de l'organisme.
Oui, puis il y a plein de trucs qu'on s'inspire directement d'eux autres, comme par exemple la façon organique de travailler, la façon de faire du gameplay basé sur ce qui ressort, puis sur ce qui fait son chemin organiquement à travers l'équipe. Là. Fait que chez Valve, ils ont une hiérarchie horizontale, ce qui fait que chaque personne peut pousser ce qu'il a envie de pousser, puis entraîner les autres dans son mouvement. Puis c'est comme ça qu'on travaille nous aussi, là, ce qui fait que justement, les gens peuvent penser qu'une hiérarchie plus classique est une façon efficace de travailler, mais en réalité, ce qui est vraiment efficace, c'est de créer un contexte créatif dans lequel chacun a une chance de s'exprimer, puis d'amener au projet ce qu'il pense qui est la bonne idée. Puis honnêtement, dans ce genre de contexte-là, les bonnes idées naturellement font leur chemin, puis ils sont poussés beaucoup plus fort parce que c'est toutes des idées en lesquelles les membres de l'équipe croient, puis donc ils vont se donner à fond, ils vont mettre leur cœur là-dedans. Fait que c'est ce qui fait qu'en fait, nous, c'est ça qui nous a permis de faire justement Tiny Brains en genre moins d'un an pratiquement. Mm-hmm. Puis honnêtement, pour un studio nouvellement formé comme ça, je pense que c'est un record de vitesse. Je pense que ça s'est jamais vu ever. De faire un jeu comme ça sur console qu'on a fait sur PlayStation 3, PlayStation 4 et Steam. Puis je pense que la raison... pourquoi on est aussi efficace, c'est justement parce qu'on est humain dans notre façon de travailler, puis qu'on permet à chaque personne de s'épanouir dans le projet. Et non, il y a personne dans notre équipe qui est un exécutant. Chacun est vraiment, t'sais, vraiment un créateur du jeu, puis chacun a l'opportunité de s'exprimer de la façon qu'il croit la meilleure. Fait que c'est ça qui, en fait, quand on travaille de cette façon-là, ça donne des résultats qui sont justement plus agréables à produire, puis donc ça enlève toutes les résistances possibles qu'un projet d'habitude a.
Okay. Tu racontais à Radio Talbot, je vais paraphraser là, si tu me le permets, un peu l'accueil qu'on vous avait accordé. Vous avez présenté le prototype du jeu, il y avait très très peu d'informations qui étaient démontrées, c'était pas tellement avancé, puis rapidement les gens ont accepté, ont acheté le concept, puis ont voulu que ça soit produit. Vous êtes chez Sony, deux fois plutôt qu'une, sur PC, mais comment ça se fait que ça n'a pas été ramassé par les gens de Microsoft? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris?
Attends une minute, là, c'est quoi la réponse à ça?
Comment non, ça se fait que vous n'êtes pas sur les Xbox? Ça, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe? Là? C'est eux autres qui n'ont pas compris, qu'est-ce qui se passe?
Je dirais que, je pense que Microsoft, ils ont maintenant justement compris, là, je pense qu'ils ont changé complètement leur politique, mais à l'époque où nous, on a sorti le jeu, il y avait des clauses de... il fallait en fait sortir tous les features présentes sur les autres consoles sur Xbox également. Il fallait aussi sortir au plus tard. T'avais pas le droit de sortir sur une autre console avant si tu voulais sortir sur Xbox.
Ok.
Ça, c'était une de leurs politiques qui ont d'ailleurs aboli. Là. Je pense que cette politique n'existe pas, mais on est encore sur la clôture au moment où le jeu est passé. Puis comme Xbox, il faut sortir à des time windows spécifiques, ben la combinaison de ces contraintes-là a fait que ça ne pouvait pas fitter dans notre, logique de shipping. Donc en fait, il a fallu qu'on prenne une décision. Mais en fait, Xbox, justement, est devenu beaucoup plus ouvert. Là. Maintenant, il se comporte de plus en plus proche de Steam. En fait, tout le monde fait ça maintenant.
Ouais, c'est ouais, un peu la marche à suivre.
Pas le choix, hein. Là.
Parce que en fait, de toute façon, c'est vers ça que l'industrie évolue. T'sais, tout est de plus en plus libéral. Il y a de plus en plus de gens qui savent comment faire des jeux, qui ont des outils pour les distribuer, etc. Donc, tu peux plus juste dire, moi, je suis le publisher, ou en tout cas, je suis le first party, puis je vous impose ma façon de faire les choses. Tu peux plus être dans une logique où tu deals juste avec des gros joueurs, parce que de plus en plus, tout le monde dans la société a la possibilité puis les outils pour faire des jeux. Puis tu sais jamais genre de où ça va sortir les perles rares, tu sais. Fait que tu peux pas, je veux dire, en ce moment les gros studios là, les AAA, de plus en plus ça se fatigue parce qu'ils se renouvellent très peu en fait, tu sais, avec la taille de des projets qu'ils font, ils peuvent pas se permettre de prendre des risques énormes, tu sais, c'est tellement gigantesque, tu sais, quand tu as un paquebot là de 10 000 tonnes de pesant, tu peux pas y dire genre, OK, on fait un 180 degrés, tu sais, c'est des gros projets puis ça peut pas tourner aussi vite que des petits là.
Ça se peut qu'ils ramassent l'iceberg en passant là.
Ouais, ben c'est ça exactement.
Ouais, il y a des titres récemment qui ont ramassé l'iceberg solide, ouais. Ça fait qu'en étant petit, ça te permet de te revirer de bord plus vite, puis de créer aussi des jeux qui sont plus à votre goût aussi. T'sais, t'as pas les actionnaires qui sont en arrêt de vous autres. Non, ça prend. Je redirai pas ce que Denis dit des fois.
Ça prend des filles avec des attributs.
Moi, j'ai besoin de ça dans le jeu, fait que tu vas en mettre, puis c'était pas pantoute dans ta vision. Là.
Ben c'est ça, c'est qu'en fait, c'est justement un autre défi dans le développement de jeu, c'est la communication. Puis tu sais, si tu veux saisir toutes les opportunités qui se présentent à toi durant un projet, tu as besoin que les preneurs de décision soient là, parce que c'est toujours des opportunités qui se présentent, mais tu sais, tu peux pas, à chaque fois que tu trouves un truc ou à chaque fois que tu as une intuition, appeler le président ou après celui qui prend vraiment la décision. Puis, le turnaround est vraiment beaucoup plus long quand il y a des gens qui sont comme dans d'autres sites ou qui s'occupent de plusieurs projets à la fois, etc. T'sais. Fait que ce que nous, on peut faire en tant que petit, ben, c'est on peut partir un peu à l'aventure puis commencer à explorer puis saisir les opportunités qui se présentent à nous au cours du projet. Puis c'est une autre des choses qui nous a permis justement de faire que Tiny Brains était aussi rapide. On était tous là, il n'y avait personne qui avait le droit de prendre une décision sur le projet qui n'était pas dans la pièce à tout moment. T'sais. Fait que ça nous a permis justement de travailler ensemble, de communiquer vraiment beaucoup oralement. Puis d'ailleurs, notre studio est vraiment organisé en cercle. On est en cercle, puis en fait, on peut se parler à tout moment. On se parle le temps qu'il faut, puis on se parle à chaque fois qu'il faut. Puis ce qui nous permet de toujours être sur la même longueur d'onde, puis de toujours savoir un peu ce que tout le monde est en train de faire, puis pourquoi. T'sais.
OK.
Ça ne doit pas perdre grand temps sur Facebook, ce gang-là.
Non, je pense qu'en ce moment, c'est ça qui est cool justement, parce que quand on est dans ce genre de projet-là, ben, tout le monde genre se donne, t'sais. Tout le monde genre y croit, puis tout le monde pousse. On n'est pas en train, il y a personne qui est en train d'exécuter la vision de qui que ce soit là. On est tous en train de créer une œuvre collective, puis c'est cette synergie-là là, qui ressort de cette dynamique-là. T'sais.
Très intéressant. Simon, dis-moi, je sais pas qu'est-ce que tu peux me dire, jusqu'à quel point tu peux parler, mais vous twitchez à chaque semaine. Oui, j'invente des nouveaux verbes à propos de Twitch, cette plateforme de streaming de vidéos où vous présentez le développement de votre nouveau projet. Le Project Cyber, je sais pas si ça va rester de même, ce nom-là. Là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet-là?
Ben, je pense que c'est un peu le fruit des différents sujets qu'on a, tu sais, des différentes réflexions qu'on a eues après Tiny Brains, des différents sujets qu'on vient de discuter à date dans ce podcast. C'est-à-dire que pourquoi on fait ça de cette façon-là? Donc, qu'est-ce que c'est Project Cyber? C'est un jeu qui se veut devenir un e-sport éventuellement, un jeu compétitif 3v3. Dans lequel chaque joueur peut choisir parmi une banque de personnages. Présentement, il y en a trois. Donc, par exemple, il y en a un qui fait un force push, il y en a un qui peut créer une genre de barrière qui déflecte la balle, il y en a une autre qui lance des projectiles, puis on va en créer d'autres, un qui peut attirer, un qui peut se téléporter avec la balle. En tout cas, on va créer toute une panoplie de personnages qui ont des pouvoirs basés sur la physique. C'est un projet qu'on a commencé après Tiny Brains. Puis encore une fois, ben, tu sais, c'est ça, on a développé une première version du jeu extrêmement rapidement, puis on a décidé de l'ouvrir complètement. C'est-à-dire qu'on donne le jeu gratuitement à tout le monde qui nous le demande, puis on stream 100% de notre développement. Puis en fait, deux fois par jour, on a des séances de playtest qui se passent justement sur Twitch, dans lesquelles on discute avec les gens qui nous suivent. On leur explique exactement sur quoi on travaille, pourquoi, quels sont nos défis, c'est quoi les questions qu'on se pose sur l'équipe de développement. On est 100% transparent sur toutes les questions du développement.
Puis, ce qui est un autre fait rare aussi dans l'industrie, parce que normalement, c'est caché, secret, on n'en parle pas trop, on veut rien montrer. Mais vous autres, c'est comme, c'est ça qu'on fait, puis voici comment qu'on le fait, puis regardez-nous faire.
Ouais, puis je dis c'est pas juste très rare, c'est juste jamais arrivé.
Ouais, c'est ça. C'est,
on est les premiers à l'essayer, ou peut-être il y en a un ou deux autres qui, tu sais, genre quand je cherche des articles, je vois qu'il y en a un qui a fait un truc qui se rapproche un peu de ça dans les Pays-Bas, genre l'année dernière. Mais tu sais, on est les premiers à être vraiment transparents puis à dire regarde, on ouvre tout, on vous montre tout, on vous donne tout, on vous dit tout.
L'espionnage industriel, vous allez avoir assez de preuves, hein, que c'était vous autres qui l'avez fait avant. Tout est daté, tout est présenté sous vidéo. Ça peut pas être plus transparent que ça, là.
Ben c'est ça, puis le truc, c'est on se fait dire « Oui, mais vous avez pas peur de vous faire voler, vous avez pas... » Ben, tu sais, ça, justement, comment vous voulez nous voler, tu sais, tout le monde le sait que c'est nous, là. Puis deuxièmement, non, on n'a pas peur de se faire voler. Si on inspire quelqu'un, puis si quelqu'un a envie de faire un projet, puis de partir dans une direction basée sur ce qu'on lui a inspiré, ben tant mieux, tu sais. Nous, on est pour qu'il y ait plus de bons jeux qui sortent, tu sais. Puis honnêtement, genre, c'est pas un autre jeu qui a été inspiré par notre projet, qui va nous empêcher de survivre. Les jeux, on n'est pas en compétition si forte que ça. Je veux dire, si notre jeu est bon, ça va fonctionner. Puis peu importe s'il y a d'autres jeux bons ou pas, ça va fonctionner pareil.
Ouais. Ouais.
Fait que c'est ça. Puis pourquoi on a fait ça? Ben, c'est parce que justement, sur Tiny Brains, quand il y a plusieurs des feedbacks qui sont sortis, après qu'on ait sorti le jeu, qu'on s'est dit merde, ok, on s'est planté là-dessus, mais crime, ça aurait été tellement facile à régler, tu sais. Fait qu'on s'est dit, mais là, c'est comme con, là, on a comme maintenant, tout à coup, on a vraiment une tonne de feedback.
Ouais, l'avoir su.
Le jeu est sorti, tu sais. Ouais. Tu sais, je disais, pourquoi qu'on a le feedback au moment où il est trop tard, tu sais, au moment où on peut plus le changer. Fait qu'on s'est dit, bon, mais regarde, là, on va avoir le feedback pendant qu'on le fait, là. Il y aura plus de genre, on le savait pas, puis de, on va le savoir un coup qui va être trop tard, tu sais, c'est. On va s'assurer que tout le monde qui a envie de nous donner des feedbacks a la chance de le faire, puis qu'on a les outils, puis qu'on est à l'écoute. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on fera. Puis justement, puis pour la raison pourquoi aussi on a sorti un update de Tiny Brains, c'est pour, tu sais, utiliser ces feedbacks-là pour créer quelque chose qui est plus en synergie avec ce que les gens s'attendaient du jeu, tu sais. Puis la deuxième raison, c'est parce que justement, je t'expliquais qu'on fonctionnait, tu sais, organiquement, puis que, tu sais, que chaque personne dans l'équipe. Apportait quelque chose, puis que l'équipe était capable justement d'emboîter le pas de tout le monde qui apportait des idées fortes, puis des idées qui faisaient du sens, puis qui amenaient le projet à évoluer. Puis en fait, ben, ça fonctionne même quand tu ouvres le projet, parce que finalement, les gens qui te suivent, puis qui amènent du feedback, ben, c'est des nouvelles personnes de l'équipe, puis dont on peut embrasser la passion, puis quand il y a des idées fortes qui ressortent, ben, ça nous aide, puis ça nous guide aussi. T'sais. Puis il y a beaucoup de gens qui sont venus avec le. Avec le point, oui, mais est-ce que ça va pas être chaotique, tu sais, ouvrir un jeu à la communauté, laisser tout le monde du feedback, ça va partir dans tous les sens. Ben,
mais il y a quand même des grandes lignes qui doivent ressortir sur lesquelles tu peux te baser pour faire l'avancement de ton jeu.
Ben, en fait, c'est ça. Ce qui arrive, c'est qu'on a quand même genre pris quelques semaines avant de l'ouvrir pour quand même établir certaines bases. Mais surtout, c'est que en fait, on est tellement transparent qu'on communique à tout le monde vraiment quels sont nos problèmes, quels sont nos enjeux, quels sont les points sur lesquels on est travaillé, quelles sont les choses qu'on n'aime pas, les questions qu'on se pose. Donc forcément, la communauté est incitée à parler des questions qu'on se pose vraiment. T'sais. Ils parlent des choses, des problèmes qu'on a, parce qu'en fait, finalement, c'est comme un processus de communication, d'éducation mutuelle entre nous et la communauté. Puis du coup, ben... Les gens ont envie de nous aider, tu sais, les gens s'attachent à ce projet-là, ont envie de le faire grandir, ont envie de le faire évoluer, puis ils vont parler des questions qui sont pertinentes de parler, puis justement, naturellement, il y a des leaders qui émergent, puis qui vont s'assurer que les questions qui ont besoin d'être résolues sont les questions qui sont qui sont discutées, tu sais. Fait qu'en fait, on a été extrêmement positivement impressionnés à quel point les gens qui nous suivent ont envie d'aider, puis ont envie d'aider dans la bonne direction. Puis honnêtement, c'est loin d'être chaotique. C'est même, il y a vraiment beaucoup. En fait, on progresse beaucoup plus vite que si on n'était pas entouré de ces gens-là qui amènent toutes ces idées-là, puis ces discussions-là dont on peut tirer la richesse.
Ouais.
Finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que vous essayez de remplacer Valve comme étant le studio le plus aimé au monde, parce que vous en donnez au monde. Tu sais, vous en donnez. C'est regarde, on est transparent. Ça, tu veux l'essayer le jeu, ben tiens, essaye le jeu. Puis on veut savoir ce que tu en penses, parce que peut-être que ton idée est meilleure que notre idée à nous autres. Tu sais, puis j'imagine que c'est un joueur vous donne une idée, puis vous asseyez, vous dites, ça a donc bien de l'allure, on n'avait pas pensé à ça, vous allez l'implémenter dans le jeu, parce que c'est un peu le but du fait d'ouvrir ça à tout le monde.
C'est un studio communiste, tout le monde égal.
Ben, voir les idées des autres, parce que des fois, il y a des joueurs qui ont des super bonnes idées, ils n'ont juste pas nécessairement la manière de le mettre en jeu vidéo, tu sais.
Ouais, mais c'est ça. Ben, je sais pas si on essaye de remplacer Valve. Honnêtement, je pense surtout qu'on est vraiment inspiré par Valve, puis ça nous pousse dans notre élan, tu sais, ça nous donne une vision de qu'on a envie de, tu sais, dans laquelle on a envie de faire partie. Puis je pense que c'est justement le fait qu'on soit petit comme ça qui nous permet de prendre ce genre de risques-là, que tu sais, ce genre de lancer ces projets fous-là, que dans le fond, il y a aucune compagnie où ça pourrait passer, tu sais. Nous, c'est juste parce que tu sais, on est une bande de passionnés, puis tu sais, on en a discuté, puis tu sais, je sentais la vibe sur l'équipe, puis on s'est dit bon ben go, on le fait. Puis, tout le monde a embarqué, puis naturellement, ça s'est mis en place. Il y a quelqu'un qui a pris en charge la communauté, l'autre a pris les médias sociaux, puis tout à coup, puis tu sais, en fait, on s'en est presque pas parlé, puis tout à coup, les briques se sont mises en place, puis maintenant, on a un channel, maintenant, ça roule, maintenant, on a des outils pour ramasser les feedbacks, maintenant, tu sais, on distribue les clés, on sait qui les a ouverts, on donne des production updates à tout le monde, puis honnêtement, ça s'est vraiment passé naturellement, puis c'est sûr que, tu sais... Moi, j'ai envie que le monde des jeux vidéo évolue dans la bonne direction. Moi, j'ai cette vision que l'industrie du jeu vidéo est encore à son enfance, même plus bas que ça. Je pense que c'est encore un bébé, le jeu vidéo. C'est vraiment loin d'être mature comme industrie. Moi, la référence que j'utilise pour parler de ça, c'est... T'sais, imaginez qu'est-ce qu'on savait faire avec l'écriture 30 ans après que l'écriture soit inventée. Vraiment pas grand-chose, tu sais.
Non, c'est ça.
Mais ouais. Là, on est 30 ans après que le jeu vidéo soit inventé. Fait que, tu sais, on est vraiment au premier balbutiement. Puis je sens, tu sais, qu'il y a quand même une responsabilité dans quelle direction ce média-là évolue. Puis, tu sais, ça peut évoluer dans une direction vraiment cool, tu sais, vraiment genre... motivante, t'sais, passionnante, puis une direction dans laquelle on va explorer des nouvelles expériences, on va explorer des nouvelles opportunités avec les technologies qui sont développées, puis c'est dans cette direction-là que les choses devraient évoluer, t'sais. Mais je pense que si tu veux que ça évolue dans cette direction-là, ben il faut être optimiste, faut se faire confiance, puis t'sais, faut se donner les outils pour que en fait le jeu vidéo ça va à autre chose que juste générer du profit, t'sais. Il faut genre se mettre dans une situation où ensemble on sent qu'on veut travailler, puis qu'on veut créer quelque chose d'unique puis de nouveau, puis qu'on veut faire avancer le média, t'sais.
Ouais, ça tombe un peu dans votre cours aussi, ça tombe un peu dans le cours des studios indépendants de faire avancer le jeu vidéo, parce qu'on s'entend que la plupart des gros studios se contentent de leur acquis, t'sais, leur grosse franchise, puis sortir une version à chaque année. Tandis que c'est souvent les petits studios qui vont sortir des perles, puis des jeux que le monde vont parler le plus, puis vont tomber en amour le plus avec.
Ouais, ben c'est ça. C'est sûr que nous, tu sais, on est passionnés. Tu sais, on a, en fait, dans le fond, tu sais, c'est sûr qu'on est justement dans un contexte qu'il faut pas nier, qu'on a rien à perdre. Tu sais, on est petit, puis tu sais, je veux dire, si jamais ça marche pas, ben ça aurait été un putain de trip qui nous a fait triper en tant que pote. Puis si jamais ça fonctionne, ben tant mieux. Tu sais, on va être riche.
C'est une bonne
tout
manière
rien,
de
hein,
voir.
comment les grosses entreprises vous voient? Parce que toi, tu le vis de l'intérieur en tant qu'indépendant, là. Mais tu vas dans les conférences, tu vas être à PAX prochainement, tu côtoies les grosses entreprises. Comment est-ce qu'eux les voient, les petits indépendants, qui grappillent tranquillement pas vite des parts de marché, qui arrivent avec des idées qui, finalement, ben écoute, ça donne un portal une fois de temps en temps, ça donne de quoi qui devient plus gros que ce que l'indépendant est censé donner. Ils vous voient comment, eux autres?
Ben, ça dépend de qui tu parles exactement, parce que quand tu parles des grosses entreprises, en fait, 99% des gens des grosses entreprises, c'est des gens comme moi, c'est des développeurs qui rêvent de faire que l'industrie soit meilleure, qui rêvent d'améliorer les choses. Puis eux, ben, tu sais, je vais dans les parties avec eux autres, puis ils sont inspirés par mon effort, puis d'ailleurs, ils viennent dans mes Twitch une fois par semaine, c'est du monde de Warner, puis du Bee, puis d'Idos, tu sais, puis c'est tout du monde, tu sais, qui partage cette passion-là, puis ces rêves-là, tu sais. C'est eux, en fait, les gens qui le core de ce qui constitue ces grandes entreprises-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, en réalité, nous, la raison pourquoi on les engage pas toutes, c'est justement parce qu'on n'a pas encore le budget, les moyens, puis même l'infrastructure pour être capable de prendre tout ce monde-là sous notre aile, mais en réalité, c'est un effort qui inspire puis qui donne envie de continuer de participer à cette industrie-là, à tous ces gens-là. Tu sais, ces indies-là, ça fait rêver. Ça fait rêver, ces gens-là. Après, les patrons, ben, tu sais, je sais pas, moi, je pense que, honnêtement, je pense que j'ai une excellente relation avec Ubisoft, qui est mon ancien employeur. Honnêtement, je respecte beaucoup ce qu'ils font, puis je respecte beaucoup la façon dont ils le font. Puis honnêtement, je pense que, tu sais, je pense pas être une vraie menace pour eux, dans le sens que je pense qu'au contraire, si on s'entraide, ben il y a moyen, tu sais, de même d'établir des synergies potentiellement, je sais pas. Mais tu sais, justement, eux autres qui ont leur force marketing, leur pouvoir financier, nous, on a de l'agilité, la rapidité. Fait que je sais pas, il y a peut-être des opportunités dans le futur qui pourraient s'ouvrir. Fait que je pense qu'il y a moyen de concilier tout ça, là.
De plus en plus dans le domaine du jeu vidéo, les créateurs se demandent comment conserver le joueur longtemps avec son jeu, de lui faire garder sa copie, de l'amener à jouer longtemps au titre, d'être aussi ouvert sur la création, d'offrir des clés ici et là pour les joueurs pour qu'ils puissent amener leur propre eau au moulin. Est-ce que tu as l'impression qu'une fois que le jeu va être sorti final, que les ventes vont être au rendez-vous, ou est-ce que la communauté va déjà être blasée de votre jeu?
Ben, celui qu'on se fait en ce moment est vraiment axé pour garder les gens autour de nous, parce que même, je dirais, depuis qu'on a annoncé notre jeu, c'est-à-dire il y a un peu moins d'un mois, ben, il y a tout un ensemble de gens qui le suivent, qui jouent tous les jours, qui donnent du feedback, puis en fait, ces gens-là sont toujours là, puis même il y en a plein qui nous suivent non-stop, tu sais, qui sont là, genre qui suivent le stream 100% du temps, puis dès qu'on veut des gens pour playtester, ben ils sont là. Puis en fait, je pense que justement, tu sais, c'est un jeu compétitif, donc la rétention est notamment créée par le fait que tu peux jouer à l'infini comme contre d'autres joueurs, contre d'autres types de personnages. Puis on bâtit vraiment le jeu dans cette direction-là pour que ce jeu-là puisse faire partie de ta vie, justement, puis que tu puisses, tu sais, comme un vrai sport, comme si c'était du baseball, là, mais tu sais, c'est pour ça qu'on dit e-sport. On est maintenant genre prudent avec ce mot-là, parce que tu sais, c'est apparemment prétentieux de prétendre à être un e-sport. Nous, tu sais, on utilise ce mot-là dans le sens qu'on veut être un sport électronique, tu sais, puis on design le jeu dans cette mentalité-là. On sait que les vrais e-sports sont élus par la communauté et non par le développeur lui-même. Ouais. C'est une partie du phénomène, tu sais.
À quand des games de Dota à la place du poker à RDS? Hein?
Je pense que ce serait nettement plus divertissant.
Honnêtement, oui.
Ouais, parce qu'à un moment donné, ça vient assez ordinaire, ouais. Mais ça pourrait être intéressant.
Fait que nous, c'est sûr qu'on essaie de créer un jeu qui va rester en vie, qui va s'alimenter des gens, puis qui va être alimenté des gens. Là, c'est quelque chose qu'on garde vraiment en tête. Là. On a plus envie de créer ce type d'expérience-là que quoi que ce soit d'autre.
Parle-moi, Simon, un peu, là, on a glissé mot là, à la blague de RDS. C'est quoi l'accueil des médias par rapport aux jeux indépendants montréalais? On entend souvent parler de l'aide financière des gouvernements pour les studios. On appuie, en gros, la communauté du gaming. Mais au jour le jour, ça se ressent comment dans les médias?
Attends, excuse-moi, j'ai pas entendu le début de ta question. Comment?
Comment est-ce que ça se vit au jour le jour entre les studios indépendants comme le tien et les médias? Est-ce que vous sentez que l'accueil est bon? Est-ce que vous avez une visibilité qui est assez grande, à votre avis, au Québec?
Ben, honnêtement, les médias québécois, je te dirais que... je les connais pas, genre... Denis Talbot... Il est vraiment cool, puis honnêtement, on sent qu'il a envie d'aider l'industrie, puis tu sais, je sens sa passion quand on a des discussions ensemble. Fait que lui, je pense qu'il y croit vraiment cette cause-là des indépendants, puis qu'il a envie que ça fleurisse à Montréal. Fait que tu sais, ça c'est super cool. Sinon, ceux que je connais vraiment, en fait, c'est les médias plus internationaux, mais qui sont spécialisés dans les jeux vidéo. Puis honnêtement, il y a vraiment un ou deux journalistes dans presque chaque gros site, mais en tout cas. Peut-être pas tant que ça GameSpot, IGN, là, les plus gros, mais mettons, on va dire Polygon, Destructoid, Joystick, tu sais, puis tous ces sites-là qui sont quand même assez mainstream dans le domaine du jeu vidéo, ben, ils ont tous plusieurs journalistes qui trippent vraiment, puis qui sont inspirés par ça, puis qui vont genre nous encourager en nous proposant des entrevues, puis des articles pour souligner ces efforts-là et ces phénomènes-là qu'on essaie de créer. Là.
Parce que, moi, je le vois un peu de l'œil du gars qui fait un podcast sur le domaine du jeu vidéo. Je regarde les médias traditionnels puis je me dis, le gouvernement met plein d'argent là-dedans. C'est une grosse business, le jeu vidéo, au Québec. On met de l'argent pour aider, pour créer des emplois. Finalement, on en parle très, très peu. Il y a peu de médiums au Québec qui en parlent. C'est un peu là-dessus là, que la question... dans le fond, j'ai l'impression qu'on parle de bien des affaires au Québec, mais on parle pas de cette industrie-là. C'est le commun des mortels qui est obligé de se créer un show par lui-même pour pouvoir en jaser parce que ça l'intéresse.
Ouais, ben en fait, c'est vrai que c'est un bon point. Là. J'avoue que j'y avais pas réfléchi, mais maintenant que tu le mentionnes, c'est effectivement vrai. Là. Je veux dire, c'est. Je veux dire, en ce moment, moi j'ai cette espèce de. d'impression qu'on pourrait devenir le Silicon Valley du jeu vidéo si toutes les choses se goupillaient correctement. Parce que, tu sais, en ce moment, moi, en fait, j'ai vraiment été hyper inspiré quand je suis allé à l'événement IGDA Demo Night. Puis à cet événement-là, il y avait 25 compagnies indie qui chacune présentait son projet. Puis la salle était pleine à craquer. C'était dans la SAT, là, au centre-ville. La salle était pleine à craquer. Puis il y avait aussi dans la salle plein d'autres indie, tu sais, qui avait des projets qu'ils présentaient pas, donc je me suis dit, OK, il y a ces 25 compagnies-là dont je connais pas la plupart, plus
c'est
plein d'autres.
Domaine, en plus.
Ouais, c'est ça. Puis il y avait aussi plein de gens du AAA qui, eux, rêvaient de se lancer là-dedans puis de partir ce genre d'aventure-là, puis je me suis dit, aïe, il y a comme une espèce d'effervescence, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, là. Puis si seulement, genre, on se met à travailler ensemble, puis qu'on combine nos efforts correctement, puis qu'on se met à s'aider ensemble, ça pourrait devenir un vrai mouvement. Là. Ça pourrait devenir la nouvelle capitale du jeu vidéo, ça pourrait devenir la capitale du indie du jeu vidéo.
Ouais.
Fait que c'est vrai que... Parce que on est vraiment dans un contexte particulier dans lequel il y a 10 000 développeurs à Montréal. L'industrie est établie depuis presque 20 ans, puis il y a beaucoup de vétérans, et puis aussi, je dirais, c'est quoi à dire, mais plusieurs grosses compagnies qui ont fermé l'année dernière. Fait qu'on est vraiment dans un contexte particulier où les indies sont en train d'exploser, puis il y a plein de projets qui sont en train de sortir un peu partout. Fait que je pense que honnêtement, il y a quelque chose qui pourrait arriver, puis c'est vrai que potentiellement, avec plus de support, il y aurait des grandes choses qui seraient possibles. T'sais.
Et en terminant, Simon, avant de te laisser partir, là, on est un mercredi soir, il est presque 21h, t'es encore au bureau. C'est-tu normal, ça? C'est-tu ton pain quotidien de travailler à ces heures-là, toi et ton équipe? Là, c'est comment, au jour le jour, un horaire de travail dans un studio?
Ben, c'est vraiment rare que je sois chez moi avant minuit, y compris le week-end. Ouais, on a, les développeurs de jeux, tu sais, je pense qu'il y a personne qui a pris ce métier-là pour sa facilité. Là, je pense qu'on est tous des passionnés. Puis qu'honnêtement, c'est quoi l'expression qui dit si vraiment t'es passionné par ton travail, tu travailleras pas une journée de ta vie.
Exactement.
Ben, on est dans ce modus vivendi-là. Là, je pense qu'en ce moment, tu sais, c'est un peu fatigant, c'est un peu épuisant, mais crime cette espèce de sentiment-là de travailler sur quelque chose dans lequel on croit, puis de faire avancer le monde potentiellement, tu sais, d'essayer de changer quelque chose. Ben, on a puis aussi cette liberté, je dirais, tu sais. Ben sérieusement, je me sens plus énergisé que même que dans un travail un peu boring de 9 à 5.
Juste comme ça, si on revient sur Projet Cyber, est-ce que c'est quoi le but de vous pensez sortir ça, bon, à peu près quand, j'imagine vous ne savez pas, mais est-ce que ça va sortir sur d'autres plateformes que Steam ou c'est vraiment un jeu qui va être PC celui-là puis ça ira pas sur les consoles?
Ben, ça dépend c'est quoi ta définition de sortir, parce que dans un sens, on est déjà sorti.
Ouais, ok, vrai.
Si tu veux jouer, tu m'envoies un email, je te l'envoie demain, la clé, tu vas pas jouer.
Ben, c'est fait en passant, je l'ai envoyé tantôt. Okay.
Ben, ok, officiellement sorti, je sais pas, il va, à un moment donné, on va décider que c'est alpha, à un moment donné. C'est parce que c'est ça, la définition de sortie est de plus en plus floue, là. Après, est-ce qu'on va rester sur Steam? Ben, c'est ça. Je pense que nous, ce qu'on vise, c'est que à partir de juin, t'auras plus besoin de nous envoyer un email pour avoir la clé. On va vraiment l'ouvrir, tu sais.
Okay.
Puis on va appeler ça une alpha. Puis okay. Après ça, potentiellement, en automne, on va appeler ça une bêta. Puis potentiellement le sortir pour vrai au début de l'année prochaine, quelque chose dans ces eaux-là. Fait que c'est à peu près ça, je dirais, notre timeline, même si on n'a pas encore vraiment complètement nailé ça ou décidé. Puis on sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va avec ce bateau-là. T'sais.
OK. Ouais, pis, c'est beau.
Est-ce que c'est juste sur Steam? Encore une fois, c'est la communauté qui va décider. T'sais. Si tout le monde nous dit, genre, on veut le voir sur PlayStation 4, ou tout le monde nous dit, on a envie de le voir sur Ouya, ou je sais pas où.
Ouya, ben, Ouya.
Nous, on est une équipe super forte, là, puis on est capable de prendre ce cap-là. T'sais. Si jamais, genre, on sent que c'est un besoin qui soit, c'est ça. T'sais, Ouya était une blague.
Ouais, le monde dans le studio regarde tout le monde, il fait comme, hé, non.
Tu nous l'avais pas dit, celle-là.
Non, mais c'est ça, fait qu'on est ouvert à tout. T'sais.
Le peuple le demande.
En plus, on adore Sony, on a une super bonne relation avec eux, c'est sur Wine. On va voir, on sait pas encore. Le projet est encore tout petit, là. Il vient à peine de commencer. C'est encore un jeune enfant, puis on va voir comment que cet enfant-là a envie de grandir. Puis on veut vraiment se laisser ouvert à ce point-là, même y compris au sujet du business model, même au sujet des plateformes qu'on va viser. Ça va être ouvert, on va en discuter avec les gens qui nous suivent, puis on va prendre des décisions pendant la route.
Ouais, okay. C'est intéressant.
Merci beaucoup, Simon, pour le temps que tu as passé avec nous. Ce fut très agréable de t'accueillir sur l'émission.
Ah, ben, c'était vraiment cool. Là. Puis si jamais tu as envie qu'on se reparle un peu plus tard dans le projet, ça me fera plaisir.
Yes. Spearhead Games, studio indépendant de Montréal, Tiny Brains, le Project Cyber.
Project Cyber, ce qui va potentiellement changer de nom un jour ou potentiellement pas. On verra.
Peut-être, qui sait. Merci beaucoup, Simon.
Merci, Simon.
Salut Jean-Benoît.
Salut.
Salut Luc.
C'est Luc. Salut. Oui, en plein ça. Moi, Daniel a pris congé.
Il a pris un guess, tombé sur le bon. Correct. Salut Simon.
À la prochaine.
C'était Simon Darvaux de Spearhead Games qui était avec nous sur cet élément de la réalité augmentée. La techno à un autre niveau, ce fut. Hein? Il y a de l'énergie, le bonhomme. Hein?
Ouais,
on sent la passion.
Pour un gars qui travaille jusqu'à minuit, mais il n'a jamais dit à quelle heure qu'il commençait le matin.
Non, hein? Garde ça secret, il ne veut pas faire peur aux futurs développeurs de jeux.
Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il commence à 6h le matin ou 5h le matin, puis il finit à minuit. Là, mais c'est des grosses journées. Puis, tu peux t'imaginer, tu le sais, tu n'entends parler des cauchemars de fin de cycle d'un jeu quand c'est sur le bord de sortir, des gars qui font des heures de fou pour des studios qui... Tu sais, finalement, juste les payent à l'heure, ces gars-là. Puis oui, ils ont la passion de faire le jeu, mais c'est des employés.
C'est pas leur bébé comme là, c'est le cas. Là.
C'est ça. Ça doit être juste pire.
Ça fait 128 jours qu'il a pas dormi, qu'il me disait.
C'est ça. Il est rendu un zombie.
Ouais.
Qui va être le prochain jeu de Spirit Games.
Simon the Zombie.
Un jeu basé sur les zombies. Mais non, super intéressant. C'est vraiment le fun. J'aime leur manière de voir le monde du jeu vidéo, puis ce qu'ils font, puis la passion qu'ils mettent là-dedans, puis le fait que, regarde, on développe un jeu, puis va l'essayer, le jeu, joue-le, le jeu, puis dis-nous ce que t'en penses, on veut le savoir parce qu'on veut le modifier pour que les gens soient contents, puis la journée que ça va sortir payant pour acheter ce jeu-là, ben vous allez savoir exactement ce que vous allez avoir, parce que vous allez avoir participé au développement de ce jeu-là. Là, on ne parle pas d'une compagnie, d'une grosse compagnie qui vous donne accès à une bêta dans les derniers deux mois de développement pour juste tester, voir si les serveurs vont tenir le coup. Là on vous dit, garde, essayez le jeu à partir du moment où c'est un fœtus, puis dites-nous tout le long du temps qui va être développé ce que vous pensez, parce qu'on veut le modifier pour que vous aimiez le jeu là. Je veux dire, c'est juste incroyable comme manière d'y aller.
Oui. Spearheadgames.ca, c'est leur site internet. Vous voulez avoir tous les détails, suivre le développement du Project Cyber.
Oui, juste aller sur la page principale. Je suis là justement. Puis si vous descendez un peu plus bas, il y a une place pour demander Project Cyber Steam Key Request. Vous pouvez avoir la page en français aussi, là. Moi, je l'ai en anglais. Puis fouillez-moi pourquoi. Google Chrome est en anglais, mais si vous allez là-dedans, vous allez voir, ça vous demande votre adresse courriel puis votre nom sur Steam. Puis c'est simplement écrit que probablement le lendemain, ou s'ils font ça dans l'après-midi, c'est marqué qu'ils font ça dans tous les jours de semaine dans l'après-midi. Ils regardent les clés, puis les gens qui ont demandé des clés, puis ils envoient des clés aux gens.
Hey, c'est pas drôle.
J'imagine recevoir ma clé demain.
Ça dit que ça jase avec le monde en direct, mais on envoie des demandes, puis ça attend le lendemain. Hey.
À un moment donné, il faut que ça dorme. Non, à un moment donné, il faut pas juste que tu répondes aux emails, il faut que tu codes aussi si tu veux que ton jeu sorte un jour.
Ça a l'air
que ça se code pas de ça.
Ben, écoute, Luc, c'est là-dessus qu'on va mettre fin à l'émission de cette semaine de la réalité augmentée. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web?
Bien, sur le Twitter, le petit oiseau, vous pouvez me rejoindre à Scalazormo. Vous pouvez aussi lire mes chroniques automobiles. Oui, j'écris sur l'automobile. Sur le site de Kijiji, donc c'est fr.kijijiblog.ca, dans la section véhicules. À chaque jeudi, il y a une nouvelle chronique automobile qui sort. Puis il y a aussi le podcast auto qu'on fait maintenant ensemble. C'est toi l'animateur. Puis vous pouvez aller au podcastauto.ca. Puis toi, mon petit JB.
Sur le gazouilleur, je cherche un autre synonyme. Je m'occupe de mon compte personnel, c'est un peu normal. Je n'ai pas encore délégué cette tâche-là à quelqu'un d'autre, pas assez big.
Non, c'est pas engagé une secrétaire pour le faire?
Pas encore, ça viendra un jour. @gangj_b. Sinon, il y a mon compte, pas mon compte, mais le compte de la réalité augmentée, @realitéhog. On a une adresse internet, realitéhog.com, sur Facebook, facebook.com/realitéhog, et une adresse courriel, podcast réalité augmentée. @gmail.com. C'est aussi simple que ça pour nous rejoindre. Vous avez plein de façons d'intervenir avec nous sur l'émission, sur différents sujets. Si vous avez des idées d'entrevue, toujours le fun. On aime bien ça, accueillir les gens de l'industrie du jeu vidéo. Entre autres, l'indépendant. On aime pouvoir faire notre petite part, tu sais, si on peut aider le moindrement la vision, la visibilité d'un projet. Why not? T'sais, on va le faire. C'est à l'échelle de ce qu'on est capable, mais on le fait avec grande joie et grand bonheur. Petite implication qu'on essaie d'avoir. Si on est capable de redonner un peu au suivant, tant mieux. Puis ça fait toujours des belles émissions. Les gens passionnés, on aime ça dans la réalité augmentée.
On n'a pas le poids d'un Radio Talbot, quelque chose comme ça, mais tu sais, ce qu'on fait, on le fait avec plaisir.
Exactement, puis on le fait avec beaucoup de joie et de bonne volonté.
Alors, quand je parle poids, je parle, tu sais, poids médiatique, là, poids, ça balance.
On clenche bien du monde.
Là, c'est autre chose.
Merci beaucoup, Luc, d'avoir été à mes côtés pour cet autre élément.
Merci à toi, Jean-Benoît. À tes côtés virtuels, parce qu'on est quand même très loin un l'autre.
Mais c'est pas grave. Toi. On est si près en même temps qu'être loin.
Si près, mais si loin.
Si près, si loin. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été de l'aventure. On se dit à une prochaine fois dans un autre élément de la réalité augmentée. Salut!
Bye tout le monde.
Maintenant, tel que promis en tout début d'émission, on vous présente cette fausse entrevue dont on a été la cible, moi, Luc et Daniel, dans le cadre du podcast Podcast et Gumballoon. En ce 1er avril, un genre de poisson d'avril, ils nous ont faussement eu en entrevue, comme on racontait. Ils ont pris des bouts d'émission, des mots qu'on disait, puis ils ont monté des réponses avec ça pour nous simuler piéger. Alors, on vous présente ça, c'est ben drôle. Voici la gang de Podcast et Gumballoon.
Vous écoutez Podcast et Gumballoon, épisode spécial entrevue, réalité augmentée. Bienvenue à Podcast et Gumballoon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et de l'Inquisiteur, je pense que je l'ai déjà dit, Sacha Lefebvre.
Hey, salut tout le monde, ça aussi je l'ai déjà dit.
Oui! Sacha, c'est un épisode spécial qu'on a aujourd'hui.
Une entrevue,
ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc là, cette semaine, on s'attaque au podcast Réalité Augmentée. Sacha, est-ce que tu veux nous dire un peu c'est quoi Réalité Augmentée?
Mais c'est comme notre rival. Non, c'est pas vrai. C'est un autre podcast qu'on a découvert cette année. Très, très le fun. Il parle beaucoup de la réalité augmentée. Pas vraiment, mais il traite pas vraiment de ce qu'est la réalité augmentée, mais il parle beaucoup de...
Ça oui. serait supposé être la techno à un autre niveau, mais dans le fond, ça parle de jeux et de cinéma plus que d'autres choses.
Ouais, je pense que c'est plus un titre accrocheur. Là. T'sais, on parle pas vraiment de Gumballoon non plus.
C'est vrai. Sauf qu'on dit pas que c'est la gomme à mâcher à un autre niveau non plus. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans nos studios les gars de Réalité Augmentée, dont JB Gagné.
Salut tout le monde!
Et on a Luc Scalazormo. Salut Luc!
Salut.
Et on a Daniel qui honnêtement est la tête pensante derrière le podcast Réalité Augmentée.
Ah, merci, c'est gentil, tu me lances des fleurs.
En tout cas, je suis super content que vous êtes là les gars. Ça faisait longtemps qu'on parlait puis on disait, il faudrait se faire de quoi ensemble là, mais c'était une très bonne idée ça. Ouais.
C'est aujourd'hui que ça se passe, mais on va commencer dans le vif du sujet. Expliquez-nous un peu le concept de réalité augmentée.
T'en es juste niaiseux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est pas déplacé, c'est moins pire que certains autres.
OK, mais qu'est-ce que vous pensez de nous autres? Genre, par exemple, Sacha.
Sébastien et Sacha, peu importe lequel et lequel.
Ah ben, OK, ben ça peut vous aider. Moi, c'est Sébastien. Puis lui, c'est Sacha. Fait que, ben, je sais pas, commencer par lui, mettons. Là.
Ouais, moi, là.
Il peut prendre sa retraite, il fera jamais mieux.
Ah, OK. C'est un... Quand même, Sacha. C'est,
ouais, puis Sébastien, lui.
Il passe vraiment, là, il passe du pire salaud de la vie, là. T'as le goût d'y botter le train, de l'envoyer, genre, se faire éduquer pendant un bon 2-3 semaines, de retourner ses bancs d'école, puis, tu sais, d'apprendre à vivre dans la société.
Ouais, j'avoue que ça nous décrit bien, là.
Ben, mettons, là, mais notre concept, en général, là, podcast et Gumballoon, là, à date, là, vous autres, là, t'sais, on est là pour parler de vous autres, mais nous autres, comment vous aimez ça, là?
Ouais.
C'est extrêmement bien fait.
C'est parfait comme ça, c'est juste correct.
C'est un concept qui est super accrocheur.
OK, mais on se le cachera pas, il y a des fois qu'on est un peu bizarre, là, comme lorsqu'on a fait un montage avec la voix de GF, chose qu'on refera probablement jamais.
Jamais, non, c'est sûr que c'est un one-time deal, hein, one-time deal. On écoute d'ailleurs un extrait.
Vous allez l'entendre une fois, là, puis vous pourrez plus jamais l'oublier.
Donc, vous avez écouté les épisodes au moins une fois, certains d'entre vous même deux fois?
Oui, et je vais probablement leur faire une troisième fois, une quatrième. C'est bon à ce point-là.
Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir.
Ah, ben, je suis vraiment content d'entendre ça, là, c'est le fun.
Mais Daniel, je pense que récemment, j'ai entendu dire que tu avais subi un accident, non?
Oui, depuis mon accident en tête.
En plus.
En effet, il y a un petit délai.
OK, mais ça t'a-tu empêché d'avoir... T'as-tu été capable de suivre le dernier épisode, par exemple?
Je l'ai terminé et je l'ai recommencé tout de suite.
C'était pas trop compliqué pour toi?
C'est pour ça que je l'ai recommencé.
Ah, ouais, j'avoue que...
Luc, c'est comment de travailler avec Daniel et JB?
C'est quand même plus violent que bon ce qu'on est habitué de voir à la télévision.
Et OK, et comment est-ce que tu décrirais tes co-animateurs, par exemple, JB?
C'est bien une bibitte bizarre qui vient probablement d'un autre monde.
Puis Daniel, lui?
On l'a jamais vu et tout ça, où il est pas vraiment confirmé qu'il existe.
Oh, fait que ça se peut, OK. Daniel serait en fait une voix faite à l'ordinateur, là. C'est ça que t'es en train de nous dire, là.
c'est weird, c'est comme le film Simone.
Oui, exactement. Mais Daniel, ordinateur, t'as pas un petit surnom au sein de l'équipe? Est-ce que tu veux nous dire c'est quoi?
Salamèche. Ouais. Et c'est vraiment fatigant.
Fatigant, donc dans le fond, t'aimes pas ça qu'on t'appelle de même?
Honnêtement, ça m'a déstabilisé.
Ouais, moi aussi, ça me déstabiliserait. Là,
Luc, je reviens à toi. Tu convoites le poste d'animateur au sein du groupe et on sent que t'espères un jour détrôner JB. Est-ce que tu crois que ça améliorerait les codes d'écoute de Réalité Augmentée ou...
Ça serait pas pire.
Exact.
Ouais, ok, ouais. Peut-être. On sait pas, hein.
C'est tout dans la théorie, là.
On sait pas. Écoute, JB, on veut pas te mettre de côté, là, mais c'est parce que les gars, ils nous ont comme payé pour pas qu'on te pose trop de questions, là.
Ouais, on attend encore après le chèque, d'ailleurs, là.
Ouais, hein.
C'est full arrangé avec le gars des vues.
Mais ça te dérange pas trop, là.
On jase. J'embarquerai pas là-dedans, ok?
Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai qu'on jase.
Mais, tu sais, au moins, dis-toi, JB, que t'es le plus cute de la gang.
Ah, oh, faut être cute. Ah, y a pas de malheur.
Ah, oh, c'est beau d'être positif de même.
Ben écoutez, les gars, on va faire ce cours. Ça risque d'être une de nos plus courtes entrevues, Sacha. Mais merci beaucoup et on vous retrouve à chaque semaine sur le podcast de La Réalité Augmentée. Merci, les gars.
Merci beaucoup.
Merci toi.
Merci beaucoup.